Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus ce matin, chers amis auditeurs, si vous nous rejoignez. Je voudrais vous faire partager une réalité en ce lundi autour d'un terme un peu barbare, la grossophobie. C'est comme cela qu'on qualifie les moqueries, la haine, les discriminations envers les personnes en surpoids, discrimination à l'embauche, regard de travers, inadaptation d'un certain nombre de lieux de la vie de tous les jours, les sièges des avions, des trains, des théâtres, des cinémas, la mode qui marche aussi à l'envers. Comment ces hommes et comment ces femmes vivent ces réalités? Comment les aider à faire face aussi à notre mesure finalement? Eh bien, France 2, mercredi soir, consacre une soirée télé à cette thématique et nous anticipons ce matin sur Europe 1 avec vos témoignages à la clé. Le standard est toujours ouvert.
Le 39-21, 50 centimes la minute.
9h-11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Pour 7 millions de Français obèses, un adulte sur deux en situation de surpoids et pour certains d'entre eux, le quotidien comme un calvaire quand le physique est un obstacle systématique pour avancer. Merci Gabriel Dédier d'être avec nous ce matin, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Vous qui êtes journaliste, auteur de « On ne naît pas grosse » publié par les éditions de La Goutte d'Or il y a quelques mois maintenant. Et vous êtes finalement celle qui a inspiré le téléfilm réalisé par Muriel Magellan, que je salue en studio avec nous. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Écrivain, réalisatrice de cette fiction « Moi grosse » diffusée mercredi. France Télévisions joue le jeu d'un sujet de société fort, alors que précisément, vous vous qualifiez aussi Gabriel Dédier comme une cohorte d'invisible, dans les médias en particulier.
Ah ben, en particulier dans les médias, oui, effectivement. Quand je demande aux gens s'ils peuvent me citer des gros connus, ils me citent toujours les trois mêmes. Et c'est bien la preuve qu'on n'est pas beaucoup, on n'est pas beaucoup et qu'on n'a pas de visibilité. Mais pas que les médias, c'est aussi le cinéma, c'est aussi la publicité, c'est tout ça.
Mélissa Adou est avec nous aujourd'hui, bonjour.
Bonjour.
Psychologue clinicienne à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous viendrez notamment nous parler de ces recours aux chirurgies, parfois barbares, les chirurgies bariatriques. Voilà, que certains font le pas, certaines font le pas, mais ça peut être aussi très compliqué. Et de toute façon, l'opération n'est pas forcément la bonne solution, Muriel Magellan. Moi, je vous remercie parce que j'ai vu ce téléfilm en avant-première qui est très fort, qui est plein d'humour et qui ressemble, je crois, aussi à la manière dont vous vivez votre vie, Gabriel Dédier. Vous vous êtes emparé de ce sujet-là assez naturellement, assez spontanément, vous qui aimez vivre avec les autres, Muriel Magellan.
Oui, je me suis emparée du sujet après que Laurence Bachmann, la productrice, m'ait fait lire le livre de Gabriel. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt sensible au personnage qu'au sujet.
Oui.
Et c'est le ton de Gabriel, c'est son indocilité, sa façon non victime de traiter le sujet qui m'ont beaucoup touchée, qui croisaient les personnages que je tente moi de raconter dans mes romans. Et bien sûr, après, j'ai découvert l'ampleur du phénomène de la grossophobie.
Que vous ignoriez, comme nous tous.
Oui, hein. Que j'ignorais, parce que on l'ignore jamais tout à fait. On se doute, mais je ne savais pas à quel point c'était une discrimination quotidienne et une violence quotidienne qui est faite au gros. Donc ça a croisé, disons, mon désir de d'écrire et de réaliser. J'ai coécrit avec Sandrine Roudex le scénario et réalisé. À croiser donc ce désir de raconter un personnage indocile, drôle, effectivement, qui a de l'humour, qui encaisse plutôt bien, je trouve, chaque chose et qui va mener un combat d'abord solitaire puis collectif. Et ça a croisé cette prise de conscience d'une problématique importante de notre société.
Dans ce téléfilm, Gabriel Dédier, que vous découvrirez donc mercredi sur France 2, c'est le point de départ, donc je ne déflore rien. Le personnage de Raphaël est viré de son poste d'animatrice des écoles parce que son obésité fait peur aux enfants. Est-ce que c'est possible en France d'être viré pour un problème de physique?
Bah écoutez, moi j'ai pas été virée, mais on m'a poussée à ne plus venir travailler et à mettre en arrêt maladie jusqu'à la fin de mes contrats.
Une forme de harcèlement moral.
Systématiquement, et je peux même vous dire que quand j'ai travaillé dans une classe avec des élèves qui étaient avec des retards cognitifs, le premier truc que m'a dit la prof, l'enseignante, c'était « je veux pas travailler avec une grosse ». Donc non seulement c'est possible, mais en plus c'est totalement assumé. C'est vraiment quelque chose que les gens n'ont pas de filtre avec les gros.
Mais l'employeur ne peut pas être sanctionné pour ses propos, pour ses
Bien sûr que si, en fait, la loi fait qu'on peut porter plainte, mais en fait quand vous êtes... quand vous êtes gros, vous avez intériorisé certaines violences et notamment celle du rejet. Et quand, en fait, toute votre vie, on vous explique que vous êtes responsable de votre état et que, bah, si tu veux pas te faire discriminer, moi, combien de fois on m'a dit, bah, écoute, Gabi, t'as qu'à faire un régime et c'est bon, on arrêtera de t'emmerder. Et donc, bah, vous êtes dans cette culpabilité-là et bah, vous ne portez pas plainte parce que vous avez honte, en fait. Enfin, et vous pensez aussi que vous méritez le traitement, la maltraitance en tout cas, qu'on vous inflige.
C'est le profil des femmes et des hommes que vous voyez défiler dans votre cabinet, Mélissa. Mélissa Ardoux, comme psychologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Oui, tout à fait. Et ce qui me touche dans ce que dit Gabriel, c'est que ça résume bien les violences que subissent et qu'ont subi les personnes qui viennent nous voir. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles n'en peuvent plus. Cette violence, elle vient aussi des médecins, hein, il faut le dire. C'est-à-dire que moi, j'entends des choses effarantes. Des fois, je me souviens d'une patiente qui me parlait d'une gynécologue qui l'avait prise alors qu'elle était venue avec ses enfants en lui disant « mais vous voulez faire des orphelins, vous rendez pas compte ?» On reproche de coûter cher à la sécurité sociale. Et puis alors là, avec l'économie qui va se baser aussi sur les comportements, l'économie comportementale, ça va sans doute s'accélérer. Donc on a vraiment des choses à penser et à revoir de ce côté-là, d'autant plus que quand on connaît, mais c'est vrai que quand on est extérieur, on ne se rend pas compte. Quand on connaît la problématique, mais ça change complètement la vie. Et en travaillant dans ce domaine, c'est vrai que mon regard aussi a évolué là-dessus.
La responsabilité des médecins, on en voit défiler d'ailleurs un certain nombre, c'est-à-dire que le personnage à un moment donné se dit, bon, bah, peut-être que, en effet, tout ce qu'on me dit, t'as qu'à maigrir si tu veux trouver un boulot, bah, il faut peut-être que je le fasse. Donc la case du régime ou de l'opération est l'une des options que certains ou que certaines cochent, Muriel Magellan. Et là, il y a différents profils de médecins, évidemment, et on n'est pas dans les caricatures. Hein. On est vraiment dans les enquêtes aussi et ce que vous avez constaté.
Oui, je me suis vraiment appuyé sur le témoignage de Gabriel et après sur d'autres recherches qu'on a faites de notre côté. Effectivement, on identifie dans le film deux types de médecins, mais
il y en a beaucoup plus.
Oui. Mais c'est le registre de la fiction qui permet ça, dont un qui multiplie les actes chirurgicaux et je crois que c'est une réalité que la chirurgie bariatrique est devenue un marché. Donc on voulait le montrer. Par ailleurs, je voulais aussi montrer un autre regard qui se porte sur les gros et avec une endocrinologue beaucoup plus en empathie et qui surtout nous permet de comprendre que chaque cas d'obésité est différent et on a une projection tellement caricaturale qui est celle de se dire que les gros sont responsables parce qu'ils mangent. L'obésité est tellement variée, les causes de l'obésité sont tellement variées et elle le nomme et elle permet de faire prendre conscience à notre héroïne, Raphaël, qu'elle est aussi malade.
Et ça, c'est un moment très fort de cette fiction que vous découvrirez mercredi soir sur France 2. Le fait est qu'il y a être gros socialement et être gros médicalement, ce que vous expliquez très bien, Gabriel Dédier. Comment on fait, cela dit, le distinguo dans la vie et comment on permet aux autres d'avoir cette compréhension des choses. Victime de grosso phobie, vous êtes en surpoids, vous avez peut-être des témoignages à nous livrer sur ce sujet-là, alors que nous faisons le tour de la question sur ce terme un peu étrange et sur ces invisibles qui n'ont plus envie de l'être jusqu'à 11h sur Europe 1.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, nous parlons de la grossophobie, autrement dit la discrimination vis-à-vis des personnes grosses, des personnes en surpoids, des personnes obèses. Wendy Bouchard.
Vous trouvez encore en librairie le livre de Gabriel Dédier, qui était un livre essai, un livre enquête, On ne naît pas grosse, publié par les éditions de La Goutte d'Or. Gabriel Dédier, vous êtes là et vous avez inspiré à France Télévisions, à Muriel Magellan en particulier, réalisatrice de la fiction Moi grosse, qui sera diffusée mercredi soir sur France 2. La grossophobie, c'est une haine des personnes en surpoids, haine ou moquerie, ou en tout cas différentes formes de harcèlement. Et ça peut commencer évidemment à l'école, au collège, au lycée. Pour vous, ça a commencé justement au collège, au lycée, Gabriel Dédier, avec des formes de harcèlement qui ont ensuite grossi, grandi.
En fait, honnêtement, j'ai pas à me plaindre de ça, ce qui concerne de l'école ou du collège. C'est plutôt au lycée.
Oui.
Et la malveillance, elle venait plutôt de mes profs et du personnel
que de vos camarades,
que de mes camarades.
Donc. Mais comment elle se traduisait?
Ah, bah, elle se traduisait par l'infirmière qui me convoque pour me demander si je me nettoie correctement les bourrelets parce que je peux faire des mycoses et sentir mauvais et que elle pense que je sens mauvais parce que il y a des, enfin voilà. C'est ce genre de choses là où c'est des profs qui vous accusent en fait, enfin qui vous parlent mal parce que vous êtes grosse et ce qui fait que en partie j'ai été déscolarisée.
Ah bon,
mais c'était pas, enfin les élèves, ça c'est arrivé, mais comme ça arrive encore, enfin c'est arrivé à la fac, ça arrive encore aujourd'hui, ça c'est ponctuel, mais à l'école, j'ai pas été harcelée par les camarades. Moi, j'ai même toujours été déléguée de classe du CM1 à la troisième année de fac.
Oui, vous aviez un caractère très affirmé et vous avez lutté contre ces stéréotypes, ces préjugés, en tout cas dans l'enceinte scolaire. Puis ensuite, ça s'est corsé, ensuite au boulot.
Pour moi, la grossophobie, pour moi, je l'expérimente vraiment à partir du moment où il faut chercher des stages et du travail.
Oui.
C'est vraiment à ce moment-là, parce que quand je suis à la fac, tout se passe bien. Enfin, je suis même présidente d'association. Enfin, je suis élue. Enfin, j'ai aucun problème. Je prends le micro dans les amphis, j'ai aucun problème. À partir du moment où je dois commencer à trouver des stages en master, c'est fini. Là, il n'y a plus personne.
À partir du moment où quoi, pour dire clair, à partir du moment où vous envoyez votre CV, votre photo?
C'est ça. En fait, je me retrouve dans ma promo avec mes camarades et ils envoient 10 CV, ils ont un stage et j'en envoie 150, j'en ai pas. Donc c'est à partir de là que je commence, mais ça, enfin pour moi c'était pas de la grossophobie. Enfin j'ai été dans le déni, hein, honnêtement, de la discrimination parce que j'ai toujours été quelqu'un de, enfin j'ai toujours cru en la méritocratie. Enfin je viens d'un quartier pauvre où
vous avez fait vos preuves. Hein.
Où enfin voilà, où il fallait m'élever par l'école et donc j'étais une très bonne élève et enfin j'étais très volontaire. Donc enfin j'étais dans ce déni en fait qui est quelque chose de systématique, de systémique,
oui,
en réalité.
Ouais.
Et il m'a fallu un moment pour l'encaisser. Et quand je l'ai encaissé, en fait, ça a été compliqué. Hein. Parce qu'il y a un moment où, quand il y a tous vos camarades de promo qui ont tous des jobs et que vous êtes encore pionne en collège, vous avez 35 ans, vous êtes pionne dans un internat alors que vous avez fait des études de Sciences Po.
Et donc, à un moment, vous vous dites, en gros, si c'était ma photo qui posait problème, et donc mon physique, et donc une discrimination à la clé qui vous a sauté en plein visage.
En fait, les rares entretiens d'embauche que j'ai eus pour des jobs que j'estime correspondre au niveau d'études que j'avais, c'était toujours des CV sans photo. Et je me suis retrouvée, en fait, avec des recruteurs qui... une fois, on était trois à attendre de passer un entretien d'embauche. Et il y a le recruteur qui serre la main des deux autres. Et moi, il me tape sur l'épaule en me disant « Allez chercher la troisième personne ». En fait, il n'avait même pas assimilé le fait que je puisse être la candidate au job qu'il proposait. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment... qui est prouvé en tout cas par les chiffres que donne l'Organisation internationale du travail, qui sont qu'une femme obèse a 8 fois moins de chances d'être embauchée qu'une femme qui ne l'est pas. Un homme obèse a 3 fois moins de chances d'être embauché qu'un homme qui ne l'est pas.
C'est incroyable et voilà pourquoi ça fait sens aussi dans ce livre Enquête et sur France Télévisions, c'est un sujet de société. Écoutez cet extrait, donc votre vie a inspiré cette fiction, Moi grosse, avec ce personnage qui traduit une saturation finalement dans laquelle elle se trouve.
Comme il m'a pas échappé que j'étais l'attraction de la soirée, je vais répondre à toutes vos petites questions. Alors, pour commencer, je pèse 145 kilos, et je m'habille en taille 60, et je fais un bon 125H en bonnet. Et il y a quand même des avantages à être gros, par exemple, on nous fait de la place dans le métro, on peut aussi se faire passer pour des femmes enceintes dans les files d'attente, ce genre de truc, quoi. J'adore manger, j'adore. Et picoler aussi, d'ailleurs. Allez, salut les losers. Ah, j'allais oublier. Bonne soirée.
Voilà, c'est un moment où ce personnage n'en peut plus, Muriel Magellan, au cœur d'une soirée. Finalement, il y a beaucoup de choses qui remontent. Elle n'est pas forcément victime d'un regard, en particulier ce soir-là, mais elle est hantée par des images qui l'obsèdent.
Ouais. Oui, c'est une scène où on fait ce confondre un peu la parano de toute personne qui subit des discriminations et la réalité. C'est un mélange en fait de choses qu'elle entend réellement dans la soirée et qui effectivement lui sont adressées, et de choses qui ne lui sont pas adressées et qu'elle imagine dans sa paranoïa, ça, légère, très légère paranoïa, que c'est, ça lui est adressé. Elle pète un câble à ce moment-là, elle a bu. Il faut dire que c'est un film aussi sur une histoire d'amitié, j'ai envie de le souligner. Oui. Elle vient de retrouver une ennemie d'enfance qui va devenir...
Qui a ses propres failles. Hein,
qui a ses failles.
Et son combat.
Voilà,
ouais.
Qui a ses failles. Et elles viennent de boire ensemble, de régler les comptes un peu du passé et de commencer à entrevoir l'avenir. Et il y a un peu d'alcool dans cette scène aussi, ce qui laisse entendre pourquoi elle éclate comme ça.
Moi grosse, c'est la fiction, mercredi soir sur France 2. On ne naît pas grosse, c'est votre ouvrage, Gabrielle Dédié. On ne naît pas grosse, mais alors comment on le devient avec ces différents facteurs, ces causes multiples? Et là, j'aimerais que Mélissa nous en dise davantage. Mélissa Adoux, psychologue clinicienne à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Beaucoup de témoignages de femmes, là, en particulier Joël et Sophie. Je vous prendrai dans un instant, mesdames, parce qu'elles veulent évoquer le recours à l'opération, la chirurgie. Décidément, voilà, c'est aussi quelque chose qui hante les personnes en surpoids, et on y vient juste après la pause.
Europe 1.
Comment vivent les personnes en surpoids dans une société décidément peu ouverte aux différences ? Wendy Bouchard.
Avec un terme qui est entré dans le dictionnaire l'an passé, la grossophobie, la haine des personnes en surpoids, des obèses, des gros tout simplement, avec des discriminations honteuses, notamment sur le marché de l'emploi. On en a parlé déjà un peu avec Gabrielle Dédié, auteur dont Ne naît pas grosse aux éditions de La Goutte d'Or, qui a inspiré la fiction de mercredi soir sur France 2, Moi grosse, réalisée par Muriel Magellan qui est avec nous. Audrey Prévost sur Twitter réagit. Je suis photographe et particulièrement pour les femmes rondes. Il est difficile de voir à quel point ces femmes souffrent du regard des gens, mais aussi et surtout du regard qu'elles portent sur elles. Et moi, j'essaie avec mon regard de leur redonner confiance. Je ne sais pas si vous connaissez Audrey Prévost.
Non, mais c'est très précieux. Voilà, très précieux, le regard des artistes sur les personnes aussi grosses pour changer les critères de beauté. Parce qu'on a vraiment l'impression que être mince, c'est être beau. Or, on voit très bien que ça n'est pas vrai. Et de la même façon que quand moi, j'ai filmé les corps gros, je me suis aperçue que la beauté était vraiment aussi là. Donc, c'est faux de penser et c'est pour ça que c'est très bien ce que fait cette photographe, que la minceur est un critère de beauté.
Et c'est très bien ce que fait France Télévisions et France 2 à cette occasion. Juliette Katz, c'est Léna Banana qui la salue. C'est donc l'héroïne de ce film-là. Oui. Elle est youtubeuse, en fait, hein, et Léna dit la suivre depuis longtemps sur les réseaux à travers des vidéos. Elle nous aide à décomplexer et à accepter comme on est et à accepter l'autre aussi. Alors maintenant, j'aimerais parler des différentes causes qui expliquent l'obésité ou le surpoids. Mélissa Adoux, vous êtes psychologue clinicienne à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Jérôme, par exemple, qui écrit « Suite à des soucis de santé et les traitements, j'ai pris 30 kilos. On vit déjà difficilement le regard de certains, alors c'est un perpétuel jugement comme un coup de poing dans la face. » Pardon de pointer ici quand même un peu la responsabilité des médecins, des endocrinologues, la majorité fait parfaitement son boulot, mais comment on peut laisser une jeune femme, un jeune homme, quel que soit l'âge, peu importe, prendre 20-30 kilos comme ça sans rien faire pour l'aider?
Alors c'est complexe. Alors déjà, vous l'avez dit, il y a beaucoup de causes. Il est probable que ce soit quand même pas la cause majoritaire des traitements, mais c'est un problème, notamment les traitements psychotropes qui ouvrent l'appétit. Mmh. Et ça, c'est un vrai souci, puisqu'en France, on est pas mal consommateurs de traitements psychotropes.
Les antidépresseurs, en gros.
Par exemple,
pas seulement.
Aussi tous les neuroleptiques, donc qui sont très utiles. Et là, on est assez démunis parce que effectivement, les patients en ont besoin pour le coup. Mmh. Et en même temps, ça ouvre l'appétit.
Et ça crée voire même l'hyperphagie, donc une soif démesurée de faim.
Ce qui manque très probablement, vous n'êtes pas sans savoir que la psychiatrie est sinistrée en France, c'est effectivement les accompagnements qui vont avec. Et ça, c'est un vrai problème de santé publique globale. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste donner des médicaments, déconnecter du reste. Et il y a, comme on reprend les causes, alors il y a quand même aussi au global notre façon de manger, nos modes de vie qui ont complètement évolué. On est beaucoup plus sédentaire, on a du chauffage, on mange de façon beaucoup plus riche aussi. Et encore, on est très protégé. On se faisait la réflexion en France pour le moment, mais quand on va aux États-Unis, au Mexique, etc. Alors déjà, moi je suis assez militante anti-soda parce que là, ça, c'est quelque chose qui joue énormément maintenant de boire du sucré à table tous les jours. Mais on a aussi des sucres cachés partout dans l'alimentation. Et ça, c'est un vrai problème. C'est une des grandes causes aussi.
Qui explique le surpoids, mais pas forcément l'obésité.
Bien évidemment. Oui. Bien évidemment. Mais quand on parle de grossophobie, ça commence malheureusement dès le surpoids. Et on a beaucoup de gens qui partent d'un surpoids, beaucoup de femmes notamment. Et on parlait de la beauté qui ne se trouve pas belle parce que ça ne correspond pas aux images. Mais
c'est-à-dire passer le 42-44 en taille, ça pose quand même des
c'est
questions
ça,
déjà.
Même probablement dès le 40.
Dès le 40, dès le 40. C'est le seuil psychologique. Alors que la taille moyenne des Françaises, c'est 44.
Mais oui. Imaginez, ça fait un paquet de femmes en souffrance quand même. On commence les régimes. Et alors là, ça, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'on commence effectivement à se mettre au régime, à se restreindre. Personne ne peut tenir éternellement un régime. Ouais. Voilà, c'est pas possible. En plus, on va, quand on va craquer et recommencer à manger, on va stocker plus parce que le corps a été mis au repos. Et donc, c'est un cercle vicieux. Sauf que quand... Alors, c'est un processus qui est bien connu, hein, qui s'appelle la restriction cognitive. Quand en plus on se remet à manger, on va avoir une image encore plus dégradée de soi. Donc ça va rajouter, on a envie d'encore plus manger parce que le sucré c'est aussi un antidépresseur naturel.
Et là vous avez des patients que vous voyez sous vos yeux grossir régulièrement sans pouvoir canaliser leur poids.
Et si la réponse autour c'est t'as pas fait d'effort, t'as craqué, voilà, c'est ta volonté. C'est fichu.
Oui. Gabriel Dédier.
En fait, on sait depuis les années 70 que les régimes ne fonctionnent pas. Et on est quand même dans la diète culture, dans la culture du régime. C'est quand même assez fou. 95% des régimes sont des échecs à 5 ans. Ça veut dire échec, ça veut dire qu'au mieux, on reprend le poids qu'on a perdu. Au pire, on en reprend plus. Et puis, si on a encore pas de bol, on développe des troubles liés à l'alimentation, en fait, des troubles du comportement. Donc, ça, c'est important de le dire que, on nous parle souvent de le taux d'obésité a doublé ces 20 dernières années ou ces 15 dernières années, mais qui a fabriqué du gros, si ce n'est toute cette industrie du régime ?
Je suis d'accord, mais on parlera aussi des effets des antidépresseurs, des traitements hormonaux. Pour vous, Gabriel Dédienne, vous avez pris 60 kilos en 8 mois.
Ouais.
Voilà, sous le regard de votre entourage, aussi de vos parents, en tout cas, je ne sais pas si ou la fiction, la réalité, mais dans cette fiction, la jeune femme responsabilise un petit peu ses parents. Comment vous avez pu me laisser devenir telle que je suis devenue et prendre ce poids sans rien faire, sans rien dire, sans m'aider, car ces troubles du comportement alimentaire, vous en avez aussi été frappée. C'est peut-être votre cas, chers amis, n'hésitez pas à venir témoigner. Isabelle nous rejoint au standard au 39-21 dans un instant et on parle de cette lutte contre la grossophobie. Voilà comment faire accepter ce corps d'abord à la personne elle-même et surtout à la société.
Nous parlons de la grossophobie. Néologisme ou mot qui est dans le dictionnaire alors ?
C'est dans le dictionnaire, hein, depuis l'an passé. C'était un combat aussi, Gabriel Dédier ?
Oui, c'est ça. En fait, c'était important que le mot entre dans le dictionnaire. Et en fait, il y a un an et demi, la mairie de Paris avait organisé une journée anti-grossophobie.
Oui.
Et suite à ça, en fait, l'élu Hélène Bidard avait fait une demande au dictionnaire de rajouter le mot. Et il y a d'abord eu le Larousse et après le petit Robert qui l'ont rajouté tous les deux à un an d'écart. Mais ça, c'était vraiment important.
Donc, grossophobie, discrimination envers les personnes
en surpoids.
Hein, en surpoids et ou obèses, oui.
Oui, et on a toujours tendance à désigner la cause de cette obésité, l'alimentation comme cause de l'obésité. Il n'y a pas que ça quand même.
Mélissa Adou, vous avez commencé de le dire.
Il y a la génétique, l'hérédité. Ouais.
Alors, bien sûr, il y a une part génétique, ce qui est, on l'a vu notamment avec des Indiens d'Amérique qui, en fait, vivaient dans le désert, étaient extrêmement. Avaient besoin de garder tout ce qu'ils mangeaient, puisqu'ils mangeaient peu. Et puis, avec l'arrivée des McDo, on a vu l'obésité exploser. Ah. Mais pas seulement, c'est vrai qu'on parlait des régimes, il y a un développement aussi des troubles alimentaires. Ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai vu défiler, puisque je faisais l'évaluation pour la chirurgie bariatrique, donc le côté c'était très difficile, pour être très honnête, mais le côté intéressant, c'est que j'ai vu du coup un panel assez large de personnes.
Qui peut être candidat.
Exactement,
et
puis surtout des gens venus de partout me raconter leur histoire. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de traumatismes et notamment de troubles dans l'attachement, dans l'histoire, qui sont renforcés par tous ces phénomènes de grossophobie, parce qu'on voit, c'est des parcours de fous. Parfois, il y avait du surpoids dans l'enfance et le fait de mettre au régime, d'être contraint par les parents, ça change aussi le rapport aux parents. Des fois, les enfants sont envoyés en internat, etc. Donc, ça peut se développer sur le long terme. Et Gabriel en parle aussi dans son livre. Il y a aussi tout pour les femmes, notamment, et pour les hommes. On retrouve aussi des fois des abus sexuels dans l'histoire.
Alors, maltraitance, c'est terrible.
Voilà.
Donc, des causes psychologiques, des traumatismes.
Aussi psychologiques qui vont créer la pas l'obésité, mais des troubles alimentaires qui vont amener à l'obésité. Et j'ai juste une petite anecdote, j'ai une amie mauricienne qui est psychologue à l'île Maurice et qui me disait il y a quelques années qu'en fait il y avait eu un gros mouvement de gens qui sont sortis du silence autour d'actes pédophiles et comme elle était spécialiste du psychotrauma, elle recevait beaucoup de patients. Elle m'a dit « Mélissa, je pense à toi parce qu'il y a énormément de patients qui sont en situation d'obésité ». Donc il y a quand même quelque chose de
Gabriel
ce côté-là.
Oui, c'est important de dire que en fait, chez les gros, il y a une surreprésentation des violences. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte.
Ce qui n'est pas votre cas.
Non, moi,
Vous avez grandi avec des parents plutôt aimants.
On m'a ni frappé, ni abusé, ni quoi que ce soit.
C'est un problème de diagnostic en ce qui vous concerne.
Mais il y a une surreprésentation de violences quand on a une population grosse. Et ce que je voulais ajouter, en fait, c'est surtout aussi... Enfin, il y a une disparité, une inégalité sur qui est gros ou pas dans la société. Et si le taux d'obésité, c'est autour des 17% en France, c'est plutôt 10% à Paris et 26% dans le Nord. Et il y a aussi une disparité, en fait, selon vos revenus.
C'est aussi un terreau de précarité.
Complètement. Hein, et en fait, j'ai juste envie de donner un dernier chiffre, c'est qu'un smicard sur quatre est obèse. Et que chez les femmes qui touchent le RSA, 30% sont obèses. Alors que quand elles gagnent 4000 euros et plus, elles sont 7% à l'être.
Et la nourriture, puisqu'on parle d'alimentation quand même, fonctionne comme un antidépresseur aussi.
Oui.
Et puis, le regard vous excluant, il y a aussi cette hyperphagie qui conduit...
Oui, et puis il y a aussi, quand on n'a pas d'argent, il y a des gens pour qui c'est le seul luxe qui s'offre, en fait, la nourriture. Enfin, qui ne partent pas en vacances, qui n'ont pas de loisirs, qui ne vont pas au cinéma, qui se disent, on va au fast-food, on va se faire plaisir, on va faire ceci ou cela.
Isabelle est avec nous, après je vous fais réagir, Muriel Magellan. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Merci de nous appeler, puisque cette émission vous sensibilise. Pour quelle raison ?
En fait, je me suis permise d'appeler parce que je trouve que j'apporte une petite pointe d'optimisme quand même, parce que j'ai 49 ans, je fais un 46, et j'ai toujours été très ronde, mais quand même, je m'aperçois que depuis 10, 15 ans, 20 ans, ça va quand même dans le meilleur, quand même dans le bon, dans l'ouverture d'esprit. Même il y a des pubs Chantel, ils ont fait quand même... maintenant, il y a des mannequins ronds. Et puis, alors, c'est vrai que je suis de Paris, mais j'ai des boutiques qui sont spécialisées uniquement dans la grande taille. Je sais que ces boutiques-là sont dans toute la France et j'arrive quand même à trouver des choses. Et en fait, c'est l'image qu'on renvoie de nous-mêmes. Donc, c'est sûr que moi, j'ai jamais eu de problème avec mon poids. Et les vêtements non plus.
Tant mieux. Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens, Gabriel Dédier, journalistiquement parlant, aussi sociologiquement parlant, pour rejoindre Isabelle?
Ça dépend de quoi on parle, évidemment. On a de plus en plus de mannequins qui dépassent le 40, 42. Il y a des mannequins grande taille, il y a des figures grande taille, mais on parle souvent, quand on parle des gros, on parle souvent des vêtements. Enfin, là aussi, il y a des inégalités. Enfin, moi, je m'habille chez... Enfin, mais moi, je m'habille chez Kiabi. J'ai pas les moyens d'aller dans les boutiques. Enfin, c'est cher quand même de s'habiller. Après, évidemment, on va nous parler des boutiques sur Internet, etc. Mais tout le monde maîtrise pas l'anglais, les tailles anglaises, etc. Enfin, oui, il y a aussi des inégalités à ce niveau-là. Et l'image qu'on renvoie, je suis désolée. Enfin, moi, quand je suis dans la rue, je suis souriante. Je suis toujours de bonne humeur. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des connards qui m'arrêtent et qui m'insultent.
Et ça dure encore. On a beau être en 2019, mais merci en tout cas pour cette pointe d'optimisme, Isabelle. Il y a une phrase, et je fais un petit peu des allers-retours, mais qui est assez obsédante dans ce film-là, Muriel Magellan, de votre employeur, d'un supposé employeur, pour le rôle qui s'inspire de votre réalité, Gabriel Dédier. Cet employeur dit à cette femme, Juliette Katz, maigrissez et je vous garde le poste. En gros, vous faites un régime drastique, une opération, ce que vous voulez, vous coupez l'estomac, vous mettez un bypass, mais dans 5 mois, je vous veux avec 40 kilos de moins.
Oui.
Et le poste est à vous.
Oui, alors là, on est vraiment parti.
On est dans la fiction ?
Non, de l'enquête, justement, de Gabriel. Je crois qu'on est vraiment tout à fait dans le réel. Et on peut même dire que ce personnage, lui au moins, offre une perspective à notre héroïne, alors que les autres ne lui en offrent pas. Donc lui, il lui dit, maigrissez de 40 kilos, ça suffira, c'est-à-dire qu'elle sera encore grosse, mais au moins, je pourrais vous envoyer en représentation.
C'est un seuil psychologique.
C'est un seuil psychologique. C'est ce qui va faire que notre héroïne va être tentée par l'opération bariatrique.
Pour c'est autant, quoi ça, bariatrique, c'est quoi
bariatrique, ce sont les opérations d'estomac, chirurgie de l'estomac qui font que on peut perdre du poids rapidement.
Qu'est-ce qu'on fait à l'estomac? On le rétrécit?
Ah ben, on coupe 80% de l'estomac.
Ah bon? Voilà. Et c'est vivable? On peut vivre après?
Ah ben, on peut vivre, mais il faut voir comment, en fait.
Ah oui. On va en parler après la pause, c'est quelque chose. Il y a des drames absolus liés à ces opérations.
Donc, c'est cette proposition qui enclenche la décision de Raphaël, le personnage. Mais c'est vrai que elle sait avant toute chose, parce que c'est aussi le parcours du combattant pour elle, c'est de trouver du travail. Finalement, elle va générer son propre travail pendant toute une partie du film. Et le fait que Juliette Katz, qui est youtubeuse, incarne le rôle est marrant parce que nous avons écrit notre héroïne youtubeuse avant ça. Voilà.
Dans un instant, le témoignage de Karine, dont la fille a vécu un enfer sur ce sujet-là. Voilà, parce qu'il y a aussi ces réalités. Hélas, tout le monde ne s'en sort pas si bien que Gabriel Dédier qui publie On ne naît pas grosse, les éditions de la Goutte d'Or. Grande soirée sur le sujet mercredi, 20h50 sur France 2. Mercredi soir, France 2 organise une soirée autour du phénomène de la grossophobie. Comment les personnes grosses sont moquées et victimes de discrimination. Certains vivent un enfer au quotidien. Wendy Bouchard.
Sur ce film-là, ma chère Julie, Raphaël, la personnage, dit « Tous les jours depuis 20 ans, j'entends des choses sur mon physique, en positif, en négatif, par curiosité. La vérité, c'est que je n'en peux plus. » Alors vous en êtes sortie comme, heureusement, une majorité de personnes en surpoids, grosses, ce que vous voulez, Gabriel Dédier, parce que vous avez une force de caractère, vous avez une conviction aussi, et surtout vous vous êtes acceptée aux yeux des autres, mais aussi vis-à-vis de vous.
Alors ça c'est encore dur en fait, parce que je sais pas moi si je m'accepte ou pas en fait. Je suis plutôt dans
Vous donnez l'illusion de vivre très bien, je veux dire, avec un caractère enjoué et c'est formidable quoi.
Mais parce qu'en fait ça c'est mon caractère en fait. Mmh. Ça c'est mais après est-ce que j'aime mon corps? Non. Est-ce que j'ai fait la paix avec lui? J'ai pas le choix si je veux.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'obésité ne se soigne pas, on ne guérit pas de l'obésité?
Non, mais non. Sinon en fait on n'aurait pas tous ces escrocs qui sont partout et qui nous vendent des poudres magiques et qui nous vendent des aliments pré-mâchés et qui, enfin, si ça se soignait, enfin voilà. Après évidemment on peut limiter. Mmh. Évidemment on peut perdre du poids. Mmh. Évidemment, mais l'obésité c'est quelque chose que vous garderez même si vous perdez du poids en fait.
C'est à dire que vous ne reviendrez pas à votre poids avant de prendre au départ à 13 ans ces 60 kilos puis cet engrenage
Je peux arriver à un poids de forme, mais oui. Mais ça demande beaucoup de travail. De travail, quand je parle de travail, ça demande un travail psy, ça demande un travail sur soi, ça demande.
Bien sûr.
Ça demande vraiment beaucoup beaucoup de choses.
Je vous dis ça parce que Sylvia nous écrit. Pour moi, les gens ne font pas forcément d'efforts pour perdre du poids. Quand on voit les caddies dans les supermarchés, il ne faut pas chercher plus loin. C'est terrible ce qu'elle dit, mais elle le dit, donc ça veut dire qu'elle exprime aussi. J'imagine les opinions.
C'est très souvent exprimé, et ce sont des incompréhensions. En fait, voilà, là, c'est typiquement je rapporte à la nourriture, alors que l'obésité est liée à beaucoup de raisons. Génétique, on en a déjà parlé, mais on peut le redire. Génétique, médicamenteuse, dépressive, traumatique. Donc, il y a énormément de raisons qui ne sont pas ce qu'a dit plein.
Alors, et j'ai envie de lui répondre à cette dame que la grossophobie fait grossir. Donc, c'est vrai.
C'est ça qui est terrible.
Quand vous avez quelqu'un...
Ça vous renferme.
Bah, voilà. En fait, on infantilise les gros. Et quand les gens regardent vos caddies et les commentent, ils vous infantilisent. Et quand la personne, elle n'est pas bien, son rapport à la nourriture, à la personne, elle regarde qu'elle et pas à la dame qui commande son caddie. Et j'ai envie de parler, parce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, on a évoqué la volonté, mais on n'a pas dit. Alors moi, je ne sais pas ce que dira Mélissa, mais pour moi, les maladies de la volonté n'existent pas. Pour moi, c'est un fantasme, en fait.
Alors, cette histoire de volonté, moi j'ai travaillé longtemps dans les addictions avant. Et je trouve qu'on a les mêmes racines et les mêmes problématiques dans les troubles alimentaires. Et d'ailleurs, derrière, il y a beaucoup ces traumas, ces troubles de l'attachement. C'est-à-dire que, évidemment, les gens déjà se sont affamés. Moi, tous mes patients sont passés par des régimes que jamais on n'aurait tenus pendant des mois. Donc là, quand vous voyez ce qu'a dit plein, c'est qu'il y a eu échec, il y a eu souffrance. Donc attention, s'il vous plaît, essayez de ne pas le juger. Mais avant ça, la personne, elle a fait des efforts, mais c'est plus fort qu'elle. Et il y a vraiment des engrenages complexes. On peut faire des choses avec la psychothérapie, mais c'est un sacré chemin.
Et il y a encore des mentalités à faire bouger. Je remercie Delphine de nous écrire. Elle est médecin et elle dit « Il faut que les obèses se prennent en charge. Ils ont le pouvoir d'agir sur leur propre corps. L'entourage ne peut pas être responsable et les médecins sont montrés du doigt alors qu'il faut se remettre d'abord en question. » Ça, c'est dur aussi.
Mais les médecins qui ne se remettent pas en cause, c'est vous qui fabriquez des gros avec vos régimes à la con. Excusez-moi, je suis un peu grossière et j'ai pas l'habitude de l'être, mais je suis désolée. Quand vous allez chez un médecin et que vous vous attendez une bulle de bienveillance parce que vous avez de la bienveillance nulle part et qu'on vous renvoie à votre culpabilité qui n'existe pas, mais enfin, vous fabriquez des gens qui sortent en fait du système médical, ce qui a été mon cas. Et après on dit ah oui, mais vous savez, quand vous êtes obèse, alors évidemment vous multipliez les risques d'avoir telle ou telle maladie.
Il faut dire pour vous, Gabriel, c'est une erreur de diagnostic au départ. Hein.
Oui, au départ, mais j'ai dû voir 7 endocrinologues pour avoir un simple diagnostic d'ovaire polykystique.
Et vous preniez 10 kilos.
C'est ça en fait. Je voyais des médecins qui à chaque fois me prescrivaient qui rivaient des diètes qui étaient mais intenables. Enfin, j'ai fait jusqu'à du 800 calories jour. Enfin, les gens, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est. Mais c'est juste 3 fois moins que la dose de ce qu'on doit prendre. Se prendre en main, c'est un peu facile quand... ça, c'est très limitant, vous voyez. Ça veut dire...
C'est pour ça que je vous le relève, parce qu'elle est médecin, en plus, elle le dit.
Mais oui, mais c'est justement, mais moi, je pense qu'on devrait faire un livre noir de la grossophobie médicale, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on... Quand même, le médecin, il ne peut pas quand vous dégoûtez même le médecin, vous faites quoi ? Vous restez chez vous. Et vous faites quoi ? Vous bouffez vos chips. Parce que de toute façon, il n'y a plus que ça qui vous calme. Et moi, je sais que quand j'ai fait des crises d'hyperphagie, c'était jamais pour le plaisir gustatif de quoi que ce soit. C'était pour me faire éclater l'estomac. C'était pour saigner. Parce que je n'étais pas capable de prendre une lame de rasoir et de me couper les veines. Alors, je me faisais du mal tous les jours jusqu'à tomber dans le coma. Et ça, c'est typiquement des médecins... Ça m'énerve. Je suis désolée, mais ça m'énerve.
Je comprends votre souffrance et tout ce qui remonte aussi avec ces mots mal prononcés, mais que j'ai pris. Je préférais les dire que de la mettre à l'antenne. Merci. À tout de suite sur Europe 1 avec les mots, pour le coup, partagés de Karine.
Je suis désolée.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
De la question suite et fin sur la grossophobie, comment éviter la discrimination envers les personnes en surpoids.
Oui, 8 fois plus d'obèses, de personnes en surpoids au SMIC aujourd'hui, des discriminations à l'embauche qui ne finissent pas. Il est vrai aussi, je vous ai entendu le dire, Gabriel Dédier, qu'on envoie certaines personnes obèses dans des cliniques vétérinaires pour faire des analyses. Ça ne fait pas partie des fake news. C'est l'horreur aussi et l'humiliation que vous pouvez vivre en permanence. Vous le racontez notamment dans votre enquête « On ne naît pas grosse » aux éditions de la Goutte d'Or. Et on entrevoit mieux ce sujet de société grâce à vous aussi, Muriel Magellan, qui avait réalisé pour France 2, mercredi soir, 20h50. Soyez devant ce très bon téléfilm, Moi, grosse, consacré à la grossophobie. Je vous remercie, chère Karine, d'arriver dans cet échange pour dire votre douleur et raconter le parcours de maman que vous avez suivi avec votre fille. Bonjour Karine.
Oui, bonjour. Mais écoutez, j'appelle... parce que je me suis dit que si je pouvais éviter, aider des parents qui ont subi ou qui subissent le même calvaire que moi à cause de la grossophobie, c'est un nom approprié, je pense. Ma fille avait 11 ans, elle était forte. Grosse, j'aime pas ce mot, mais oui, on peut le dire. Elle a subi un harcèlement scolaire, déclenché une phobie scolaire, continuer à grossir jusqu'à arriver à un poids qui était dangereux pour sa santé. Aucun docteur n'a mis son poids, son obésité sur le dos de son mal-être. C'était sa faute. C'était elle qui faisait pas attention, qui se prenait pas en main, qui se faisait traiter de grosse par certains médecins, jusqu'à ce qu'on lui propose une chirurgie gastrique. Au bout de 6 mois de contrôles médicaux, de divers docteurs qui ont tous expliqué que la chirurgie gastrique était obligatoire, prise en charge par la sécurité sociale, donc importante. Elle l'a fait et après coup a été lâchée par le chirurgien et l'équipe médicale. Elle avait 15 ans, elle a commencé à perdre du poids, c'était trop rapide. Elle est rentrée dans une anorexie puissante. Elle s'est battue, elle a perdu, elle est décédée en juin dernier d'un arrêt cardiaque. Voilà ce que la grossophobie peut faire à une jeune fille, à une famille entière.
Elle avait quel âge votre fille, Karine ?
19 ans.
Elle avait 19 ans et 8 ans de souffrance avec le désarroi que l'on sent, la douleur évidemment, Karine, mais le désarroi que l'on sent vis-à-vis aussi du corps médical sur ce type d'opération. Pardon, parce que Mélissa Hadou, vous êtes psychologue, comment on peut laisser une enfant et sa famille dans cet état ?
Bah, bien évidemment, je suis scandalisée. La réalité, c'est que normalement, sur des mineurs, ça doit être rarissime. Et en fait, la Haute Autorité de Santé a des recommandations, notamment le suivi, la préparation avant, et la chirurgie ne doit intervenir qu'en cas d'échec d'un suivi y compris psychologique bien mené et dont vraiment n'attendrait plus rien, c'est très rarement le cas. Et surtout, il doit y avoir un suivi à vie. Là, on entend que c'est pas le cas, alors qu'en plus, on est sur une mineure. Donc, c'est évidemment un scandale pas possible. C'est malheureusement des choses qu'on entend extrêmement souvent, puisque la chirurgie reste quand même quelque chose de lucratif. J'enjoins les gens qui sont intéressés à aller quand même
c'est horrible,
au maximum dans des endroits où ils valident avant, ils vérifient qu'il y a un vrai suivi.
Il y a un protocole, théoriquement, mais il y a des abus partout.
Mais oui, et puis c'est surtout qu'on a un vrai problème aujourd'hui en économie de la santé, tout simplement. Le suivi, ça coûte cher, la chirurgie, ça rapporte. Donc quand on doit faire de l'argent, notamment clinique, etc., évidemment, on va prendre ce qui rapporte et on ne va pas faire le
et
suivi
ça peut
derrière.
Tuer, ça peut tuer comme la fille de Karine, parce qu'il n'y a pas de suivi, justement. 60 000 opérations bariatriques l'an passé, Gabriel.
L'an passé, il y a 1% de la population qui a été opérée.
Et pas forcément des gens en obésité morbide, pour lesquels c'était vital.
Non, en fait, avant c'était l'exception, la chirurgie. Aujourd'hui, ça devient la règle.
Oui.
Quand vous êtes en obésité morbide, on vous propose directement. Aujourd'hui, on ne prend plus de pincettes. Hein. Vous avez un IMC de 40, on vous propose directement une chirurgie. Moi, pour aller soigner une otite, je suis ressortie. Donc j'avais une otite, je vais chez le docteur et je ressors avec une ordonnance pour une chirurgie bariatrique. On en est là. Mais ce que j'ai envie de dire en fait sur ce cas dramatique...
Oui. Et la maman, et Karine est toujours avec nous, j'aimerais bien vous mettre en relation, mesdames.
Hein, Karine, on est en empathie totale. En fait, le drame, c'est que votre fille, pardon, elle s'appelait...
Ma fille s'appelait Léa.
Eh ben, Léa, elle ne fera pas partie des statistiques des ratés. Quand je dis des ratés, je parle de chirurgie, madame.
Des échecs,
pardon. Elle ne fera partie d'aucune statistique, en fait, Léa. Et c'est justement ce qui nous manque, en fait. C'est ces statistiques, ces suivis pour montrer qu'on ne sort pas indemne de tout ça. Et ce qu'a vécu Léa, en fait, on a des tas de gens. Enfin, moi, je sais que je discutais encore il y a pas très longtemps avec mon endocrino qui me disait qu'il y a des hôpitaux psychiatriques qui sont pleins de gens qui se sont fait opérer il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans,
qui
ont développé des troubles du comportement et qui ne rentreront jamais dans ces statistiques.
Voilà pourquoi c'était bon de vous avoir ce matin. Voilà pourquoi c'est fort que France 2, avec vous, Muriel Magellan, produise aussi cette fiction mercredi soir. Chère Karine, merci infiniment d'avoir eu le courage de parler. Je sais que vous vouliez sensibiliser en particulier les jeunes. Et je vais vous donner les coordonnées de Karine, si vous voulez bien, Gabriel Dédier. Vous êtes en train d'enquêter aussi pour Arte. Et peut-être, ça fera du bien, Karine, de parler avec vous de cela. Et je vous remercie, Mélissa Hadou, pour les mots choisis, aussi votre délicatesse, psychologue clinicienne à la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Oui, et je voudrais juste dire qu'il y a quand même des équipes qui militent, et notamment à la Pitié, ils se battent pour que ce soit plus un handicap, c'est-à-dire qu'il y ait des choses adaptées, des ambulances adaptées, etc. Donc il y a aussi bien sûr des très chouettes médecins, et merci à eux.
Merci beaucoup. Merci. Et à demain.
Merci beaucoup.
Au revoir Muriel.
C'était le tour de la question avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.